Intervenez au 01 45 24 7000, invité ce matin de la matinale. Florian Philippot, à la tête du parti Les Patriotes, parti qui tient son congrès dit fondateur demain à Arras. Les questions des auditeurs dans un instant. Et d'abord, Florian Philippot, la question de Patricia Martin.
Oui, Florian Philippot, vous disiez tout à l'heure, vous parliez des vieux partis en disant que finalement c'était pas mal que Emmanuel Macron ait fait un petit peu sauter, certains, même beaucoup sauter certains clivages. Alors, le scénario est sans doute fictif, mais que diriez-vous si des adhérents de La République En Marche, vous souhaitez vous rejoindre?
Figurez-vous que nous en avons, ça peut paraître surprenant, mais nous avons même des référents de La République En Marche.
Est-ce qu'on peut avoir des noms?
Vous retrouverez dans la... J'avoue que je vais profiter de ce week-end à Arras pour rencontrer tout le monde, mais nous avons un candidat, là, je ne peux pas donner encore son nom, qui sera là, mais nous avons déjà une personne dans le Nord-Pas-de-Calais qui... Je pourrais vous donner le nom, c'est sorti dans la presse locale, hein,
mais tout en restant,
qui était en marche. Ah, mais s'ils veulent rester en marche. Mais enfin, généralement, ça n'est pas le cas parce que il y a quand même un fossé d'idées assez de convictions assez profond. Mm-hmm. Mais peut-être, moi, je fais l'analyse suivante, c'est qu'ils avaient été attirés par En Marche justement sur cette volonté de renouveau, de positionnement, de briser les vieux clivages, ce que proposent aussi les Patriotes. Mais c'est vrai sur une offre politique très différente. Et peut-être qu'En Marche, au départ, n'était pas très bien identifié. On n'avait pas vu le côté très fédéraliste, quand même libéral, point de vue économique. Et c'est bien que les gens évoluent et puissent voir cela. Maintenant, c'est vrai que nous autorisons, nous l'avons mis d'ailleurs dans nos statuts, qui devront être approuvés demain.
D'appartenir à deux partis différents.
Oui, nous autorisons la double appartenance ou la triple appartenance. Il y en a. On a même quelques gens du Front National, bien sûr, mais aussi des gens de DLF, des gens de l'UPR, des gens de la France
Debout
Insoumise.
La
France Insoumise aussi. Et effectivement, d'En Marche, comme on le disait, mais plus rarement.
Combien de militants aujourd'hui chez les Patriotes?
Alors nous avons, au 31 janvier, nous avions 6500 adhérents. Voilà, en 4 mois, le 31 janvier. Donc c'est quand même une belle dynamique et nous continuons d'avoir des adhésions, évidemment, chaque jour.
Mais
c'est important d'ailleurs, je le signale comme message de soutien, parce que nous n'avons aucun financement public.
J'allais y venir.
Au-delà de s'impliquer politiquement, c'est aussi un petit message de soutien, parce que contrairement à la plupart des autres partis politiques, nous avons 0 euro et 0 centime de financement public.
Puisque votre parti n'existait pas lorsque les dernières législatives...
Exactement.
Et ont été...
Donc sauf dissolution, ça ne changera pas avant 2022.
Ça ne changera pas avant 2022. Quelle leçon d'ailleurs avez-vous tiré de vos deux premiers échecs électoraux il y a quelques semaines lors de législatives partielles?
Ah ben moi, nous étions parfaitement lucides sur le fait que nous n'allions pas...
En dessous de 2% à chaque fois, deux candidats, l'un a fait
2%,
l'autre
1,2. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas de pensée magique. Il n'y a aucune raison qu'au bout de 4 mois d'existence, alors que encore une faible part de Français nous identifiaient, peut-être un peu plus encore aujourd'hui, encore plus demain, mais il y a encore beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'existence des Patriotes, ce qui est bien normal, parce qu'il n'y a pas de grande campagne électorale nationale. C'est lors des campagnes électorales qu'on se fait qu'un mouvement politique vraiment s'installe dans le paysage. Donc c'était bien qu'on puisse se roder, montrer qu'on a été parfaitement efficace sur l'organisation militante, l'organisation électorale. Le score d'ailleurs n'a pas été inexistant. On était même à quelques dixièmes de points du Parti Socialiste dans le territoire de Belfort. Mais il n'y avait pas de raison qu'en si peu de temps on soit déjà parfaitement installé. Ce que nous avons vu, c'est que nos adversaires politiques étaient en dynamique négative. Et surtout qu'il y avait 80% d'abstention. Et que donc, on a intérêt à travailler pour proposer une offre intéressante et attractive.
Florian Philippot, on va aller d'abord au standard pour entendre les questions des auditeurs de France Inter ce matin. On commence avec Bernard. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour monsieur.
Quelle est votre question?
Monsieur, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Philippot. Vous venez de nous indiquer avoir le soutien de monsieur Farage. Je rappelle que M. Farage est un Anglais qui, après avoir soutenu le Brexit, a immédiatement démissionné en admettant avoir menti sur l'affectation des fonds économisés sur l'Europe dans le système de santé. Alors je trouve très drôle que vous pensiez avoir pouvoir vous arroger le soutien de quelqu'un qui est à la fois un démissionnaire immédiat, quelqu'un qui a trompé dans ses électeurs, et qui admet avoir menti. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Nigel Farage, on va préciser, hein, c'est l'ancien leader du mouvement europhobe UKIP, et il fera message, il vous donnera message demain.
Oui, une vidéo.
Par vidéo.
Oui, monsieur, je pense que vous êtes victime d'une fake news. Monsieur Farage n'a jamais dit qu'il avait menti, et il a Il a dit qu'il n'était pas en accord avec un argument qui n'était pas celui de sa campagne électorale. Et lui, il a donné beaucoup d'autres arguments qui se vérifient d'ailleurs. Et vous savez, si les Britanniques aujourd'hui, dans les tout derniers sondages, montrent qu'ils revoteraient de la même manière, malgré le déluge, délire de propagande anti-Brexit et pro-Union européenne, eh bien, ça veut dire quelque chose. C'est une aspiration à la liberté, à pouvoir se protéger, à pouvoir être en prospérité. Quant à Farage, je ne sais pas d'où il a démissionné. Enfin, je suis dans son groupe au Parlement européen, il est là.
Il n'est plus à la tête de son mouvement UKIP, en tout cas.
Oui, mais enfin, ça, écoutez, il l'avait créé en 93, il a pu passer le flambeau, mais il le suit de près. Et puis, il est là au Parlement européen, il suit de près maintenant les négociations. Il se trouve qu'ils ont atteint leur but, ça y est. Maintenant, ils suivent de près les négociations pour voir que l'Union européenne, qui essaie de punir le peuple britannique, de faire en sorte, d'en faire un exemple, en révélant là d'ailleurs son vrai visage, eh bien, lui, il est là, avec d'autres, bien sûr, avec beaucoup d'autres pour faire respecter la volonté du peuple britannique. Il se trouve que c'est un pays qui respecte les résultats de ses référendums. Ça fait envie parce qu'en France, la dernière fois que nous avons eu un référendum national, le 29 mai 2005, le résultat n'a pas été respecté, c'était sur la Constitution européenne.
Votre premier objectif électoral, ce sera donc pour les européennes l'an prochain, sauf que les enquêtes, et vous ferez notamment avec votre mot d'ordre pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, sauf que les enquêtes montrent bien que les Français sont plutôt attachés à l'Europe. Est-ce que ce n'est pas contre-productif en termes de au moment où vous cherchez à fédérer les Français ?
Vous savez, il y a deux manières de faire de la politique, hein. Soit on regarde le sondage du jour et on change ses convictions, soi-disant. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas de conviction, mais enfin, on change son discours en fonction du sondage. Soit on est là pour convaincre.
Un Français sur trois veut rester. Seulement un Français sur trois serait plutôt favorable.
Veut sortir de l'Union européenne aujourd'hui, oui, un sur trois d'après les sondages. C'est déjà pas mal, vous me direz. Parce qu'on n'est quand même pas beaucoup à le proposer. Et oui, nous le proposerons clairement lors des élections européennes. Nous serons pour le Frexit, la sortie. Il y a tout autre discours. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux Français. Tout discours sur. Je sais ce que voudrait entendre une majorité de Français parce que beaucoup voient bien les problèmes de l'Union européenne. Alors ils voudraient entendre on va réformer de l'intérieur l'Union européenne, etc. Sauf qu'il faut qu'ils comprennent que quand on leur dit ça, c'est une fausse promesse. Qu'on leur dit ça d'ailleurs depuis 40 ans. Vous pouvez reprendre les premiers slogans du Parti Socialiste engagé dans les premières élections européennes de 1979. Il y avait déjà ce genre de promesse. En réalité, on ne peut pas réformer ce système. On peut de moins en moins d'ailleurs le réformer. Et il est bien tenu en main, je peux vous dire, de manière très ferme, par ceux qui savent parfaitement ce qu'ils veulent en faire depuis le départ, c'est-à-dire une entreprise quand même de destruction des nations et de destruction des souverainetés
c'est
populaires
votre prisme, il faudrait
et des souverainetés
pas
nationales.
L'Europe a une entreprise de déstabilisation et de destruction massive. Depuis que les Anglais ont pas choisi le parti pris de sortir, les Britanniques de sortir de l'Union européenne, les enquêtes d'opinion à Londres montrent qu'il y a plus d'anxiété chez les jeunes. L'inquiétude gagne également l'industrie automobile britannique qui s'inquiète de ses exportations. L'industrie britannique exporte 80% de sa production. Ouais. Comment ne pas être inquiet pour l'industrie française
écoutez,
également à ce moment-là?
Moi, j'ai vu les derniers chiffres industriels britanniques qui montrent une augmentation de la production industrielle de 2,1%. Ils montrent une augmentation de la production manufacturière plus importante qu'en France.
Oui, mais il va falloir pas y payer des barrières douanières.
Attendez, il montre un chômage à 4,4% qui n'augmente pas. Il montre que le déficit commercial baisse parce que la livre sterling est revenue à un niveau normal, a baissé un peu, ce qui était bien pour l'économie britannique, pour qu'elle respire. Et figurez-vous même que la France qui fait son premier excédent commercial historiquement depuis longtemps avec le Royaume-Uni est en train de voir cet excédent baisser.
Sauf que
vous voyez, donc, nous souffrons d'un euro, l'euro d'abord à la base, parce que c'est un vêtement qui est taillé pour un pays, l'Allemagne, mais pas pour les autres, trop grand ou trop petit. Et puis en plus, en ce moment, il est particulièrement surévalué, puisque l'euro a remonté par rapport au dollar à plus de 1,20, parfois même plus de 1,25 dollars, ce qui nous fait souffrir. Bah, les Britanniques n'ont pas ce problème. Alors je sais bien qu'il y aura toujours des reportages pour expliquer que les Britanniques sont anxieux ou je ne sais quoi. Enfin, il se trouve que quand vous leur demandez comment voteriez-vous aujourd'hui, ils revotent de la même manière. Donc ça, et surtout, ils ont voté le jour J comme ils ont voté. Et ça, c'est le résultat démocratique. C'est une aspiration à la liberté. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on craint la liberté. Vous savez, 95% des pays du monde sont libres. En dehors de l'Union européenne, les autres, et des pays beaucoup plus petits que la France d'ailleurs parmi ceux-là. Et ils réussissent parfaitement à négocier leurs accords commerciaux. Prenez le Canada. Le Canada, c'est 30 millions d'habitants. C'est 2/3 du PIB de la France. Ben, ils ont négocié comme des grands leur traité CETA avec la grande Union européenne, 500 millions d'habitants qui devaient nous en montrer tout ce qu'on devait voir.
Parce
qu'il se trouve que le Canada a mieux négocié que l'Union européenne alors qu'ils sont plus petits que la France.
Ils sont allés négocier avec les Européens parce que les Américains étaient en train de leur faire un enfant dans le dos de ce point de vue-là. Et donc
oui, mais ils ont négocié parce
c'est
qu'ils connaissaient leurs intérêts stratégiques.
On va retourner
au standard. Et là, ça, c'est précieux comme argument.
Jacques est en ligne. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Quelle est votre question à Florian Philippot ?
Alors voilà, ma question était longue, mais donc par conséquent, je sais que je vais faire une note de synthèse. Hein. Alors, premièrement, si vous voulez, d'abord, je tiens à clarifier les choses, je ne suis pas du tout... Moi, je suis de gauche, hein, vraiment de gauche, parce que pour moi, les mots veulent dire quelque chose, une gauche un peu ferme, disons, et je crois en l'Europe. Bon, voilà, ceci posé, il y a aussi une chose dans laquelle je crois, c'est aux mots. Les mots veulent dire quelque chose, ils ne sont pas employés impunément.
Pardon de vous presser, alors, Jacques, mais il y a quelques secondes, il nous reste quelques secondes pour terminer
oui,
cette
alors,
session.
Simplement, voilà, je voudrais savoir l'opinion, ce que pense, et puis qu'est-ce que cela indique, cette phrase du général de Gaulle, hein. Donc toujours sur les mots, être nationaliste, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est détester ses... Être patriote,
pas nationaliste.
C'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est détester celui des autres. Voilà.
Eh bien, qu'en pense Florian Philippot ? Et en quelques secondes, pendant que vous
pensez. Oui, monsieur. Aussi. Eh bien, écoutez, j'ai nommé mon mouvement les patriotes et non pas les nationalistes. Donc je suis parfaitement d'accord avec cette phrase du général de Gaulle. Si j'étais en désaccord, je l'aurais nommé les nationalistes. Mais il se trouve que j'aime profondément mon pays, mais j'aime aussi celui des autres. Voilà.
Voilà. Mais bien voilà pour les patriotes. Merci aux auditeurs de France Inter. Merci Florian Philippot d'être venu ce matin sur France Inter et votre congrès fondateur, donc à partir de ce soir, mais vraiment demain à Arras, dans le Pas-de-Calais.